Vous êtes sur RTL.
10h30.
RTL Midi.
Le 12-30, Christelle Rebière.
Bonjour à tous, bienvenue dans RTL Midi. Et en ce vendredi 8 janvier, l'Alsace passera sous couvre-feu à 18h dimanche. D'autres départements de l'Est de la France devraient suivre. Nous irons en Côte d'Or qui s'y prépare. Les contaminations repartent à la hausse. 17% de nouveaux cas enregistrés depuis début janvier d'après Santé publique France. Des inquiétudes aussi sur le variant du virus britannique, plus contagieux, détecté à Bagneux en région parisienne. Nous serons sur place. La grippe aviaire, elle, sévit dans les élevages de volailles. Il va falloir abattre plusieurs centaines de milliers de canards. Une catastrophe pour la filière. Nous serons en ligne avec la directrice de l'interprofession du foie gras. Dans RTL Midi aussi, l'ancien entraîneur de patinage artistique Gilles Beyer présenté à un juge d'instruction. Il est accusé par plusieurs femmes d'agression sexuelle. C'est Sarah Abitbol qui avait brisé le mur du silence l'an dernier. Il y a 25 ans tout juste disparaissait François Mitterrand. Emmanuel Macron lui rend hommage pour la première fois à Jarnac. Invité d'RTL Midi, le fils cadet de l'ancien président Gilbert Mitterrand. La météo, bonjour Valérie Quintin.
Bonjour.
19 minutes de soleil à Paris hier, ouais. Peut mieux faire.
Oui, bah c'est raté parce qu'on les a eu ce matin, les petites éclaircies. Ce matin, c'est vrai qu'on avait des petites portions de ciel bleu. C'est terminé, la grisaille va encore une fois l'emporter sur pratiquement tout le territoire, excepté près de la Méditerranée, dans le sud-ouest et en remontant jusqu'aux portes de la Loire-Atlantique où ça restera quand même très ensoleillé. À côté de ça, on n'a pas trop de mauvais temps. Quelques flocons le long des frontières du Nord et 2-3 petites averses possibles ce soir entre le nord de la Bretagne et les Hauts-de-France. Les températures cet après-midi, 2 degrés à Nancy et Ambérieu, au meilleur de l'après-midi, 16h, 16h30. Avant, après, c'est terminé. 4 à Paris et Montauban, 5 à Abbeville, 6 à Brest et 12 maximum à Bastia.
La question du jour sur RTL.fr. Avez-vous la nostalgie de François Mitterrand? On attend bien sûr vos témoignages, vos souvenirs. Bonjour Pascal Pro.
Bonjour, ce sera évidemment l'une de nos questions. Les autres, hors de question de baisser la garde, ce sont les mots de Jean Castex hier, qui maintient les restrictions sanitaires en vigueur. Si vous êtes professionnel de la culture, de la restauration, du ski, eh bien vous pourrez nous appeler pour donner votre avis. Le gouvernement craint également la diffusion en France du variant britannique, plus contagieux, de 40 à 70%. Est-ce que cela vous inquiète? Nous en parlerons également tout à l'heure.
Au 32-10, RTL vous donne la parole.
50 centimes la minute.
Pas question de baisser la garde, disait donc Jean Castex hier face au virus. Les restaurants, musées, salles de sport resteront fermés en attendant de savoir quel impact auront eu les fêtes de fin d'année sur les contaminations. Et on commence justement à voir des premiers chiffres de la part de Santé publique France. Sophie Orange, le nombre de nouveaux cas a augmenté de 17% depuis début janvier.
Oui, augmentation alors que le nombre de tests, lui, a chuté, moins 39%. Autrement dit, moins de tests, mais plus de résultats positifs. Le virus circule davantage à un niveau déjà très élevé. Et ce, dans toutes les tranches d'âge. Les régions les plus touchées restent la Bourgogne-Franche-Comté, le Grand Est, Provence-Alpes-Côte d'Azur et la région Rhône-Alpes. Pour Santé publique France, il y a peu de doutes. C'est le réveillon de Noël qui explique cette hausse. On verra si cette tendance se confirme la semaine prochaine avec les conséquences, cette fois-ci, du 31 décembre. Un indicateur doit être scruté dans les prochains jours. Le taux de positivité, son augmentation serait une mauvaise nouvelle.
Bon, et sur le variant anglais du coronavirus qui inquiète beaucoup. Quels sont les derniers chiffres?
Alors, 19 cas confirmés. Le dernier en date à Bagneux. Une femme, agent de la ville, qui travaille dans 2 établissements scolaires. Mais grâce à la période des vacances, elle n'a pas croisé beaucoup de monde. Ses cas contacts ont été testés. On attend les résultats. En Ile-de-France, 3 autres cas confirmés ces derniers jours. Plus 5 autres possibles qui ont voyagé en Angleterre. Ils sont en cours de séquençage. En Bretagne, l'ARS a communiqué ce matin les derniers résultats sur 7 patients et 2 personnels soignants. Analyse génétique très fine du virus. Finalement, il y a bien un variant, mais ce n'est ni le variant anglais, ni le variant sud-africain, mais un autre variant. C'est donc la preuve que le virus mute en permanence. Pour savoir quelle est l'ampleur de la circulation du variant anglais en France, tous les tests positifs d'hier et d'aujourd'hui vont être analysés avec une technique de PCR spécifique capable de repérer la mutation anglaise. Si c'est le cas, tous les prélèvements seront alors analysés dans des laboratoires spécialisés.
Merci Sophie Orange. Une chose est sûre, la mutation britannique du virus qui le rend plus contagieux a bien été repérée, comme vous le disiez, à Bagneux dans les Hauts-de-Seine, auprès d'une personne qui ne s'est pas rendue au Royaume-Uni, ce qui signifie que le virus circule déjà dans notre pays. Quelqu'un qui travaille dans un collège et une école. Julien Fautra, vous êtes sur place pour RTL. Et à Bagneux, on s'organise à la hâte pour tester le maximum de monde.
Oui, en effet, mais peu d'informations. Alors, en attendant, les parents d'élèves comme Guillaume renforcent leur vigilance.
Il fallait que ça tombe sur nous. On n'a pas de chance. Après, on avait reçu un mail du directeur de l'école pendant les vacances, comme quoi il y avait un cas de Covid. On ne connaît pas trop la dangerosité de ce nouveau virus-là, enfin le virus qui a muté. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a une contamination qui s'est passée à l'école. Dans tous les cas, les réflexes restent les mêmes. Il faut se faire tester, puis surtout se protéger de nos proches et de notre famille.
Campagne de tests prévue aujourd'hui pour les personnels de l'établissement. Cette secrétaire du collège semble pourtant un peu perdu.
On ne sait pas encore comment ça va se passer.
Dans la salle des fêtes, à quelques mètres d'ici, sera installé demain un centre de tests géant pour tous les habitants. Franck attend les instructions pour s'y rendre, inquiet de la dangerosité du variant anglais.
Ça, c'est inquiétant. Donc oui, on a tout intérêt à essayer de l'isoler le plus vite possible. De ce point de vue-là, évidemment, je suis tout à fait prêt à participer à ce qui sera mis en place pour limiter sa diffusion. Ça, on a tout intérêt.
Qui a contaminé cette animatrice scolaire? L'enjeu pour les autorités sanitaires est de remonter la chaîne depuis Bagneux, depuis ce collège Henri Barbusse.
Julien Fautra avec Florian Thiénot. Et le couvre-feu à 18h devrait être étendu à de nouveaux départements, tous situés dans la moitié est du pays. Le préfet l'a confirmé ce matin pour l'Alsace. Ce sera sans doute aussi le cas en Côte d'Or. Raphaël Vantard, vous êtes à Dijon pour RTL où l'on s'y prépare.
Pas de vent à la criée ni de bonne humeur autour des halles centrales du marché de Dijon. Ce n'est clairement pas une bonne nouvelle qui se profile dans ces allées comme dans tout le département de la Côte d'Or. Et le visage des commerçants autour ne s'y trompe pas. Nadia tient une boutique de prêt-à-porter. Elle sait qu'elle risque de perdre beaucoup de clients avec le couvre-feu à 18h.
On a quand même une clientèle de bureau, tout ça, qui sort à 17h. Alors des fois, on travaille un petit peu entre 17h et 19h. Déjà là, en ayant le couvre-feu à 20h, on sent que les gens sortent du travail et hop, les courses alimentaires et direct à la maison. Alors là, à 18h, ça va être encore pire.
Tour de clé sur la porte de son restaurant. Nebi a décidé de fermer, de ne plus assurer même la vente à emporter. Ce ne sera plus rentable, dit-il, sans les livraisons du soir.
On comptait beaucoup sur tout ce qui était vente en livraison. Donc on a préféré fermer complètement en attendant deux jours meilleurs. Le contact avec les clients, on l'a plus. Donc on se retrouve démunis. Plus de vente à emporter, plus rien.
Dans les allées, les passants se préparent aussi à ce couvre-feu, pas encore annoncé, mais tellement pressenti. Michel, retraité, s'y résout.
Si ça peut permettre d'améliorer la situation, il n'y a pas le choix. Mais bon, il fait nuit à 5h30, il fait froid, donc on ne peut pas faire autrement, en attendant la vaccination.
À l'entrée de la place des Halles, un accordéoniste tente, par quelques airs joués, de briser la morosité en vain.
C'est déjà ça, reportage Raphaël Vantard à Dijon. Du côté du vaccin, l'Europe vient de passer une commande XXL à Pfizer. 300 millions de doses supplémentaires, elle double la mise. En tout, avec les différents vaccins, la commande atteint 2,3 milliards pour fournir les 27 pays de l'Union. 2 600 000 doses seront livrées en France d'ici fin janvier, d'après la ministre déléguée à l'industrie Agnès Pannier-Runacher. Et les Français sont toujours dans le paradoxe. 56% souhaitent se faire vacciner d'après un sondage Harris Interactive pour LCI, mais presque qu'autant sont surtout favorables à un reconfinement. Chez les animaux, c'est la grippe aviaire qui fait des ravages en ce moment. La situation est hors de contrôle dans le sud-ouest. Le nombre de foyers d'infection dans les élevages de canards a doublé en une semaine dans les Landes. Des centaines de milliers de canards et d'oies vont encore être abattus, reconnaît ce matin Julien de Normandie, le ministre de l'Agriculture. Alors pour aller plus loin, nous sommes avec Marie-Pierre P, directrice du CIFOG, l'interprofession du foie gras. Bonjour.
Bonjour.
Là, on est vraiment dans une situation d'urgence, dans une course contre la montre ?
Totalement, totalement. Nous luttons, tout le monde est mobilisé, que ce soit les services vétérinaires, mais également toute la profession pour essayer d'aller plus vite que ce virus qui est quand même toujours devant nous, dont nous sommes effectivement toujours inquiets.
Donc l'objectif là, aujourd'hui, c'est de sauver les élevages du Gers et des Pyrénées-Atlantiques ?
Tout à fait. Aujourd'hui, la zone des Landes, malheureusement, est condamnée à très court terme. Et l'enjeu est d'éviter que ce virus atteigne les élevages du Béarn et également du Gers, comme cela avait été le cas en 2017.
Et comment faire ?
Comment faire ? Il faut certainement procéder à des dépeuplements plus importants. C'est ce que nous attendons finalement, qui risque d'être annoncé par le ministre cet après-midi, que nous allons rencontrer également, puisqu'il a déjà annoncé qu'il y aurait d'autres dépeuplements.
Il n'y a pas d'autre solution, de toute façon, qu'abattre en masse ces volailles. Mais j'imagine que c'est compliqué en termes logistiques, non ?
C'est compliqué en termes logistiques, c'est c'est vraiment très compliqué, traumatisant pour les éleveurs. Pour tous les gens qui sont en train de lutter contre ce virus, c'est quand même une nouvelle épreuve pour la filière.
C'est-à-dire que vous êtes en train de revivre finalement le cauchemar des hivers 2015 et 2016 ?
Totalement. Nous attendons que le ministre précise les modalités d'indemnisation parce que nous sommes victimes de ce virus qui a une agressivité extraordinaire d'après les experts épidémiologistes. Et malheureusement, malgré tous les investissements qui ont été faits, que ce soit au niveau des producteurs, au niveau des transporteurs ou au niveau des abattoirs, nous avons beaucoup investi pour maîtriser la biosécurité, pour mettre les animaux à l'abri. Malheureusement, ce virus est plus fort et nous sommes victimes malheureusement de ce nouvel épisode.
Mmh. Le ministre promet ce matin que les éleveurs seront indemnisés sur la valeur marchande des canards. Pour vous, ça fait quand même une grosse différence ?
Totalement, ce n'est pas suffisant parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que les éleveurs voient leurs animaux dépeuplés, leur élevage dépeuplé et qu'ils ne vont pas pouvoir remettre en production avant que toute la zone soit débarrassée de ce virus. Donc c'est une perte économique de production qui avait été prise en compte en 2017 et en 2016 et nous demandons à ce que ce soit à l'identique cette fois-ci parce que nous sommes victimes de ce virus.
Et ça va durer combien de semaines, voire combien de mois ce vide sanitaire ?
Ah, je pense les fois dernières, il y avait autour de 6 semaines à 8 semaines parce qu'il faut que toutes les exploitations soient nettoyées, désinfectées et que les analyses montrent qu'il n'y a plus de virus dans l'environnement.
Donc vous êtes à l'aube d'une crise majeure, hein, d'une nouvelle crise majeure.
Malheureusement, il faut espérer que le virus ne gagnera pas le Gers et ne gagnera pas le Béarn.
Merci beaucoup, merci Marie-Pierre Pé d'avoir témoigné, directrice du CIFOG, l'interprofession du foie gras. Merci à vous. L'ancien entraîneur de patinage artistique Gilles Beyer, dans le bureau du juge, il est accusé de plusieurs agressions sexuelles. On y vient dans un instant.
RTL Midi.
Avec Christelle Rebière.
Il y a presque un an, l'ancienne patineuse Sarah Abitbol mettait fin à l'omerta dans son milieu, loin des paillettes et des figures imposées. Dans son livre « Un si long silence », elle dénonçait les agressions sexuelles et les viols dont elle avait été la victime lorsqu'elle était adolescente de la part de son ancien entraîneur Gilles Beyer. Et la parole s'était libérée autour d'elle. D'autres témoignages avaient suivi. Aujourd'hui, Gilles Beyer, accusé par d'autres jeunes femmes, va être présenté à un juge d'instruction, Nicolas Georgerot.
Oui, dans la foulée de 48 heures de garde à vue, Gilles Beyer voit donc la justice enclencher une étape supplémentaire avec une possible mise en examen à la clé. Dans les multiples témoignages depuis maintenant un peu moins d'un an, tous ne vont pas être pris en compte. Certains faits présumés sont prescrits, notamment ceux concernant les déclarations de jeunes femmes mineures à l'époque. Mais certaines accusations datent de ces dernières années. La mère d'une ancienne championne de France junior a été entendue par les enquêteurs. Harcèlement sexuel, chantage en 2017-2018. Elle a expliqué comment Gilles Beyer avait notamment proposé une licence gratuite à sa fille en échange de relations sexuelles. Dans ce dossier, d'ailleurs, une seconde enquête a été lancée il y a quelques mois par le parquet de Paris. Elle fait suite à un rapport du ministère des Sports sur une dizaine d'entraîneurs de patinage mis en cause pour des faits de harcèlement et d'agression sexuelle.
Nicolas Georgerot. Elle est venue témoigner devant les assises des Alpes-Maritimes. Jacqueline Vérac, richissime propriétaire d'un palace à Cannes et d'un restaurant à Nice, est venue déposer devant ses ravisseurs présumés et raconter les deux jours qu'elle a passé ligotée à l'arrière d'une camionnette, Michael Lefebvre.
Oui, c'est une petite dame déterminée, au dos voûté par une scoliose, qui a raconté son calvaire. Masque noir sur le visage, pull bleu et manteau au col en fourrure, elle a témoigné assise pendant 70 minutes. J'ai pas grand chose à dire, sauf que ma vie a changé, a-t-elle débuté. Quand je sors, je suis stressée, je regarde partout, je suis moins insouciante qu'avant. Jacqueline Vérac est ensuite revenue sur sa première tentative d'enlèvement en décembre 2013. J'ai essayé de griffer mon ravisseur pour garder une trace d'ADN. Vos ongles ont été précieux, lui répond le président Véron, car l'ADN retrouvé, inconnu à l'époque, sera celui de Philippe Dutton, un ancien militaire anglais, organisateur du deuxième enlèvement et le seul dans le box à reconnaître les faits. Cet enlèvement du 24 octobre 2016 est ensuite évoqué. La femme d'affaires, au riche patrimoine mais à la vie simple, va passer 48 heures à l'arrière d'un kangou, bâillonnée, ligotée, les yeux bandés, en refusant de manger, boire ou dormir. J'entendais des gens passer près du véhicule, dit-elle. J'ai même de taper SOS en morse avec mes pieds. 48 heures de souffrance et enfin la liberté quand un promeneur, intrigué par une plaque d'immatriculation mal accrochée, voit quelqu'un s'agiter dans la camionnette. « Sortez-moi de là et appelez la police », lui cria la vieille dame. Interrogé enfin sur Giuseppe Serena, le commanditaire présumé du kidnapping et ancien gérant d'un restaurant appartenant à la victime, « Nous n'étions pas en mauvais termes », dit-elle. « C'était mal géré, il avait la grosse tête. Il m'en a voulu, mais je ne pensais pas à ce point-là. » Et Jacqueline Verrac de conclure, « J'ai eu de la chance, beaucoup de chance. »
Michael Lefebvre au Palais de Justice de Nice pour RTL. Après avoir célébré l'année de Gaulle, Emmanuel Macron est à Jarnac, 25 ans jour pour jour après le décès de François Mitterrand. Il s'est rendu dans le petit cimetière où se trouve la tombe assez discrète de l'ancien président et a salué ses proches ainsi que son prédécesseur François Hollande. Et nous sommes en ligne à Jarnac avec le fils cadet de l'ancien président de la République, Gilbert Mitterrand. Bonjour.
Oui, bonjour.
Il y a 25 ans, au moment du décès de votre père, la France avait découvert à Jarnac deux familles côte à côte, l'officielle et l'officieuse. Quel souvenir vous reste-t-il de ce moment ?
Bon, moi, j'étais pas tout à fait dans cette surprise-là, d'une part.
Bah oui.
Et donc, j'étais plutôt en recueillement devant le cercueil de mon père et toutes ces obsèques nationales qui se déroulaient autour. Bon, donc, l'image que vous avez reçue, évidemment, était pour vous, je veux dire, une surprise, mais pas pour nous. Et d'autant moins pour nous que c'était très naturel que les deux familles soient là.
Mmh. 25 ans après, les amis les plus proches qui ne manquaient jamais un hommage à Jarnac, qui faisaient le pèlerinage de manière annuelle, c'était un rendez-vous. Oui. Ces gens-là ont pour la plupart disparu. Quel était l'état d'esprit ce matin ?
Vous parlez d'il y a 25 ans. Vous savez, il s'est passé 25 ans entre temps. Alors, il y en a qui ont disparu, malheureusement, parce que c'est la règle de... c'est la règle du jeu, quand on avance en âge à un moment, quoi. Bon. D'autres gens, ce matin, c'était très particulier dans la mesure où c'est à la fois une organisation liée au Covid, quoi, d'une part, et une visite présidentielle qui a toujours ses règles de protocole et de rigueur qui font que c'est pas d'un accès aussi facile pour tout le monde comme cela. Bon. Mais pour tout cela, vous savez, il n'y a pas besoin d'être à Jarnac pour être avec François Mitterrand.
Mais justement, vous parliez de la visite présidentielle. Emmanuel Macron était là pour la première fois. Vous avez dialogué avec lui. Que vous a-t-il dit ?
J'ai dialogué et nous avons présenté les lieux du cimetière, de pourquoi ici, comment, de la maison natale. Donc nous avons passé un moment de visite des lieux et de l'histoire de la jeunesse de François Mitterrand ici même sur place. Et nous n'avons parlé que de cela.
Est-ce qu'il est mitterrandien, selon vous, Emmanuel Macron ?
Je ne sais pas, c'est à lui qu'il faut le demander. Je veux dire, il était là en tant que président de la République pour rendre hommage à un ancien président de la République. Chaque année, depuis 25 ans, quel que fût le président, il y a eu un hommage rendu, soit parce qu'une gerbe était déposée, soit parce qu'il y avait un représentant du président de la République. Et deux fois, il est arrivé que ce soit le président de la République lui-même. Une fois François Hollande, et puis cette fois-ci Emmanuel Macron, mais qu'il venait rendre hommage au président de la République, en personne. Donc, moi, j'y vois plutôt un message, non pas le message, c'est que la mémoire est indispensable pour bâtir l'avenir. Hein, voilà, c'est tout. Il a raison sur ce point. Surtout lorsque cette histoire est si présente dans l'actualité. Quoi. C'est un rappel à ceux qui pensent que le monde est né avec eux. Il rappelle qu'il n'est pas né avec eux. Et voilà.
François Mitterrand, il avait réussi l'union de la gauche. Aujourd'hui, cette gauche, elle est plus divisée que jamais. Vous avez longtemps été élu, hein, député, maire, conseiller général du côté de Libourne. Qu'est-ce que vous attendez de la gauche en 2022 ?
Non, mais attendez, le rendez-vous du 8 mai, c'est d'abord un rendez-vous de la mémoire et du souvenir autour de François Mitterrand. C'est pas un commentaire de l'actualité politique. Tout le monde a compris qu'il y avait un héritage de François Mitterrand. C'est à la fois une page d'histoire des socialistes, c'est aussi une page d'histoire de la gauche, c'est une page d'histoire de la France et c'est aussi une page de l'histoire de l'Europe. C'est tout ça. Et François Mitterrand a laissé des empreintes, il a bousculé quelques lignes, il a montré une démarche, une action, et il a même laissé des outils, vous voyez, dans la législation française ou dans les traités européens. Et tout cela, c'est très contemporain, et d'autant plus contemporain que l'actualité nous le rappelle tous les jours. On peut pas parler aujourd'hui du Covid sans parler de la dimension européenne du problème. On ne peut pas parler du problème de l'environnement sans parler de la dimension européenne minimale, mais mondiale, que cela suppose. Donc, cette très d'actualité de voir cette démarche qu'il avait imprimé pour que justement le rassemblement des Français et le rassemblement, enfin dire la force de l'Europe, puissent être des outils de réponse nécessaires à la dimension des défis qui se posent aujourd'hui dans le monde et évidemment en Europe. Il a laissé tous ces outils, il a même laissé des consignes, j'allais dire, c'est-à-dire des mises en garde sur tout ce qu'il ne fallait pas faire après lui. Malheureusement, il y a eu beaucoup de choses qu'il aurait souhaité ne soient pas faites.
On entend en tout cas que son héritage est encore très actuel, très contemporain. Merci beaucoup d'avoir témoigné, Gilbert Mitterrand. Merci beaucoup.
Je vous remercie.
À bientôt. Son compte Twitter a été réactivé. Le ton a changé. Donald Trump, dans une vidéo, a lancé un appel à la réconciliation et condamné une attaque odieuse sur le Capitole. La veille, il disait encore aux assaillants « Je vous aime ». Il faut se calmer, a-t-il ajouté en promettant de se concentrer sur une transition sans accroc, lâché par ses proches au pouvoir, peut-il se relever politiquement de cet épisode qui restera dans l'histoire? Brice Dugénie a posé la question à Cécile Coquet-Mokoko, professeure en civilisation américaine à l'université de Versailles.
Donald Trump va continuer à être une voix importante dans le paysage politique américain parce que, tout simplement, des millions de gens croient ce qu'il dit, beaucoup plus que ce que disent les scientifiques et les médias. On est pratiquement dans un phénomène de culte de la personnalité. On est même au-delà des partis politiques. Il y a quand même 74 millions d'Américains qui étaient prêts à continuer avec ce président. Mais il faut encore qu'il se sorte de ses démêlés avec la justice. La justice américaine attend des explications concernant des accusations de fraude fiscale. Et à présent, il y a aussi une accusation d'incitation à la sédition. Si le président se trouve dans des démêlés avec la justice qui sont quand même assez importants, il est évident qu'il ne pourra pas se représenter en 2024, très clairement.
Décryptage de Cécile Coquet-Mokoko. L'année 2020 aura été la plus chaude dans le monde, à égalité avec 2016, à 1,25 degré au-dessus de la période pré-industrielle, en particulier en Europe. Et en ce début 2021, ça ne vous a pas échappé, pour l'instant, ici, on est à 4 degrés en dessous des normales. Ça crée des tensions sur le réseau électrique, au point que RTE, son gestionnaire, a dû demander dans l'urgence aux Français de réduire leur consommation d'électricité ce matin pour éviter toute coupure. Ça a bien marché, Marie Guerrier.
Oui, RTE avait tablé sur une consommation de 88 000 mégawatts. Et en fait, on a économisé 1000 mégawatts à 9h, heure de pointe. D'abord parce que la météo, en fait, nous a un peu aidé avec une meilleure luminosité au lever du jour. Un ciel plus clair, c'est moins de lumière électrique. Les industriels ont aussi, ce matin, limité leur consommation. Et puis, on peut penser que l'appel aux éco-gestes a été entendu. Et ça devrait devenir des réflexes. Recharger les portables la nuit plutôt que la journée. Et si chaque foyer débranche 5 appareils au lieu de les laisser en veille, la cafetière, la télé, l'ordinateur, bien, on économise la consommation d'une ville comme Brest. En télétravail, privilégiez les réunions en audio plutôt qu'en visio, plus énergivore. Et si en ce moment, vous travaillez à la maison, évitez de faire tourner la vaisselle et la lave-linge en journée. La consommation générale d'électricité en France est plus basse actuellement qu'en temps normal à cause de la crise sanitaire qui ralentit l'économie. C'est de l'ordre de moins 3%. Mais donc, vous le disiez, il fait froid, on tire sur le chauffage. Il faut donc un peu compenser. La production est suffisante, dit RTE. Mais dans ces circonstances, les marges de sécurité se réduisent. Le moindre incident technique pourrait entraîner une baisse de la tension ou des coupures temporaires, d'où l'appel à réduire les autres usages électriques de notre quotidien.
Il y aura sans doute d'autres appels du genre d'ici à la fin de l'hiver. Merci Marie. Comme chaque jour dans RTL Midi, le coup de cœur de nos correspondants en région pour un personnage, une histoire, une initiative locale. Aujourd'hui, nous partons à Locminé, en Bretagne, où la municipalité a décidé de recycler les masques chirurgicaux et de leur donner une deuxième vie, une toute autre utilité. Nicolas Bobby, racontez-nous.
Oui, je suis devant l'une de ces bornes en plexiglas, transparente. Il y en a une dizaine réparties dans toute la ville. Elles permettent de les collecter. Michael Offret, conseiller municipal, est à l'initiative de cette belle opération.
Et après, ils sont mis en décontamination naturelle dans les services techniques de la mairie et on les envoie à Grandchamp. C'est les travailleurs handicapés qui s'occupent du délitage, enlever la barrette du masque pour ensuite les envoyer au broyage à Châtellerault. Ça va devenir des règles, des équerres, 10 000 masques, 400 règles pour les écoles.
Au lycée Anne de Bretagne, je viens de rencontrer Laetitia et Noah, admiratifs de cette métamorphose des masques.
C'est une très bonne action, ça permet d'éviter de laisser les masques par terre.
Même pour nous, après, pour les écoliers qui n'ont pas forcément d'argent ou trucs comme ça, pour les règles, les équerres, c'est bien aussi pour eux.
Bien sûr, une borne de collecte sera installée. Aurélie Passera est la directrice adjointe.
Nous portons des masques toute la journée. La collecte qui va être faite au lycée sera certainement fructueuse. Je trouve que c'est une initiative collective très intéressante.
Le Cminé, c'est le pays de l'agroalimentaire où l'on utilise également beaucoup de charlotte. Des entreprises seraient prêtes à jouer le jeu.
Magnifique histoire, merci Nicolas Bobby. Et on retrouve Pascal Praud avec qui vous allez dialoguer au 32-10 dans quelques minutes.
Est-ce que vous vous souvenez du 8 janvier 1996
Oui, moi je m'en souviens très bien parce que j'étais à l'antenne ici sur RTL et c'était un peu branle-bas de combat, si vous voyez
entre
ce que je veux dire.
Entre 10h et 11h, je crois que c'est
tombé. C'est ça,
tombé.
10h55 exactement, ça courait un peu. Hein,
rue Frédéric Leplay,
oui.
L'avenue Frédéric Leplay dans Paris a été pendant 3 semaines, un mois, jonché de roses et évidemment de fleurs. C'est un souvenir très fort, en tout cas pour moi. Je ne sais pas s'il l'est également pour les auditeurs. Ils pourront témoigner.
Le souvenir de Jarnac, pardon, mais je l'évoquais tout à l'heure un petit peu avec Gilbert Mitterrand, mais c'est deux familles.
Mais bien sûr.
Avec cette deuxième famille officieuse qu'on découvrait à ce moment-là. C'est un souvenir qui a beaucoup
très fort,
marqué les Français.
Quelque chose de romanesque, quelque chose aussi, disons-le, de très élégant de la part de Daniel Mitterrand d'accueillir... en l'occurrence, une famille qu'elle connaissait, sans doute, mais que les Français découvraient. Donc, c'est un souvenir très fort. Et alors, est-ce qu'il y a une nostalgie de François Mitterrand? Il ne s'agit pas de parler simplement de politique, mais de l'homme qu'il était. Eh bien, vous pourrez témoigner dans quelques instants.
À tout de suite. La météo, Valérie Quintin, toujours aussi froide.
Oui, c'est vrai que les températures sont quand même très largement en dessous des normales. On a 2 degrés, on aura 2 degrés au moment le plus chaud de l'après-midi à Orléans, 3 degrés à Grenoble et à Toulouse, 4 à Paris, à Lille, à Strasbourg, 5 à Cherbourg, 10 degrés à Nice, tout cela avec un ciel encore bien gris globalement. On va trouver le soleil dans l'extrême sud, entre les Pyrénées et la Méditerranée, mais également en Limousin et en remontant le long de l'Atlantique jusqu'à la Loire-Atlantique. Il faudra prévoir ce soir quelques averses en revanche entre le Finistère et les Hauts-de-France et puis 2-3 flocons de neige le long des frontières du Nord.
Et ce week-end, vous nous remettez la lumière un petit peu?
Alors oui, mais progressivement quand même. Hein. On va faire ça par étapes. Demain, certes, on va avoir l'après-midi en tout cas un petit peu plus de luminosité, surtout entre la Bretagne et les Hauts-de-France. Pour les autres, ce sera un peu plus laborieux. On va avoir du très mauvais temps à partir de demain et d'ailleurs pour tout le week-end sur la Corse avec des pluies, du vent, de la neige à assez basse altitude aux alentours de 600 mètres. Et en plus, il y a un fort risque d'avalanche du coup sur le relief Corse. Les températures demain matin iront de moins 6 degrés à Gap, à 4 degrés à Ajaccio. On aura 0 à Paris, au Havre ou encore
ça.
À Montpellier. Dans l'après-midi, fourchette de moins 1 degré à Saint-Etienne, à 12 degrés à Nice, avec 3 à Lille et Lyon, 4 à Paris et Toulouse. Et puis la journée de dimanche, elle, sera vraiment plus lumineuse. Les températures resteront très basses et on aura donc ce mauvais temps sur la Corse qui va déborder vers les Alpes-Maritimes et vers le Var avec pas mal de pluie et de la neige à très très basse altitude.
Ah, merci Valérie. À suivre le rappel des titres, il va être 13h sur RTL.
Il est 13h01.
Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Praud.
Jean Castex a parlé, évidemment, les restaurateurs comme les directeurs de salles de spectacle ne sont pas satisfaits. Bonjour Bruno.
Bonjour Pascal.
Vous allez bien?
Eh bien, écoutez-moi, ça va bien, oui, mal même, on pourrait dire.
J'imagine, vous allez nous en parler. Inutile de dire que vous venez de l'Aveyron. Je pense que ça s'est entendu, cher Bruno. Christelle.
Le couvre-feu s'étend dans l'est du pays pour endiguer l'épidémie. L'Alsace y basculera à partir de dimanche, comme l'explique la préfète Josiane Chevalier.
Cette règle s'appliquera donc dès dimanche pour les deux départements alsaciens. À 18h, les gens devront tout simplement rentrer chez eux. Ça veut dire que les commerces devront également fermer à 18h. C'est la dernière mesure sur laquelle nous comptons pour endiguer cette évolution négative du coronavirus et faire en sorte qu'on n'arrive pas à la phase de reconfinement.
Josiane Chevalier avec Yannick Collant. Le Vaucluse devrait aussi basculer, ou encore la Côte d'Or. Le nombre de nouveaux cas a progressé de 17% depuis début janvier, d'après Santé publique France. C'est sans doute le premier signe des contre-coups des fêtes de fin d'année. Quant au variant anglais du virus, il a été repéré notamment à Bagneux dans les Hauts-de-Seine, chez une personne qui ne rentre pas du Royaume-Uni. Un barnum va être installé pour que la population puisse se faire tester. Du côté des vaccins, l'Europe achète 300 millions de doses supplémentaires au laboratoire Pfizer. Le musée du Louvre a subi une baisse de fréquentation de 72% par rapport à 2019. Le plus grand musée du monde, fermé pendant 6 mois, accuse une perte de recettes de plus de 90 millions d'euros.